hors champ. Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce soir en compagnie de Camille Laurence. C'était écrit en lettres noires à demi effacées sur le mur de la cage d'escalier. Camille Laurence, au-dessus d'un doigt tendu qui désignait le fond de la cour. À droite, dans la cour, le nom s'étalait de nouveau en lettres plus grosses, au-dessus d'une porte comme en haut d'un livre énorme. Camille Laurence, surmonté de ces trois mots en arc de cercle, danse de salon. C'est ce que vous écrivez. Camille Laurence, alias Camille Laurence, car Camille Laurence naissait à peine et Camille Laurence, ce n'est pas votre vrai nom. Camille Laurence, page 169 de votre premier livre qui s'intitule « Index ».
Oui, je m'étais amusée dans ce premier roman à rire aussi autour de la question du pseudonyme, puisque je venais de prendre un pseudonyme pour entrer en littérature, et c'était l'histoire d'une femme qui achète un livre, elle croit qu'elle l'achète par hasard, en fait on l'incite à l'acheter. Ce livre s'appelle Index, et il est écrit par un ou une Camille Laurence, et comme ce roman raconte sa vie, quelque chose, notamment un épisode de sa propre vie qu'elle a voulu garder secret et qu'elle voit étalé là, à longueur de page, elle part à la recherche de l'auteur de ce livre. Et comme je ne voulais pas qu'on sache tout de suite si c'était un homme ou une femme, j'ai pris un prénom qui peut convenir pour l'un ou l'autre. Et c'est devenu Camille, puisque moi je m'appelle Laurence.
Et quand on lit vos livres, jusqu'au dernier, on s'aperçoit que vous êtes une lectrice vorace, que ce premier livre est placé sous la tutelle bienfaitrice de Borges,
oui.
Et que l'idée du labyrinthe est devenue, était peut-être d'ailleurs en tant que lectrice, mais est devenue peut-être une méthodologie de votre écriture.
Oui, complètement. Mais c'est vrai qu'à l'époque où j'écrivais ce premier roman, donc au tout début des années 90, je faisais du théâtre et je jouais dans une pièce inspirée de romans, de nouvelles de Borges, qu'en fait Borges n'a jamais écrit pour le théâtre, ni d'ailleurs de romans. Et la figure du labyrinthe, comme d'ailleurs celle de l'encyclopédie, me hantait particulièrement. Et je n'ai jamais cessé, en effet, d'apprécier et de pratiquer ces constructions pour perdre un peu le lecteur, me perdre moi-même, qu'on soit obligé de revenir en arrière, d'essayer une autre piste, que ce soit une impasse. C'est quelque chose qui me plaît, qui correspond peut-être à l'idée que je me fais de la vie, en fait, où on ne sait jamais trop où on va et si on va trouver la sortie. Et puis, qui correspond aussi à ce que j'aime en littérature, que ce soit pas forcément trop linéaire, qu'on n'aille pas de A à B comme ça, tranquillement.
Alors le fragment, l'absence de linéarité sont des principes aussi que vous appliquez dans vos textes qui sont de nature différente d'ailleurs. Quand on regarde la totalité de vos livres, on s'aperçoit que l'un est peut-être la continuation d'un autre, mais qu'en même temps, il y a un saut dans le vide, qu'à chaque fois vous reculez les limites même de ce que ça veut dire écrire.
Oui, écoutez, je suis contente de que vous disiez cela parce que c'est, enfin, le sentiment que j'ai, c'est en tout cas de ne pas vouloir faire le même livre que le précédent. Parce que je pense que d'une part il n'y a pas de recette, même si par ailleurs je pense comme Proust qu'on écrit toujours le même livre, mais dans cette, parce qu'on est hanté par quelques obsessions, mais en tout cas je cherche à chaque fois une forme différente, peut-être pour dire toujours la même chose.
Ce que je sais, ce que je peux dire d'expérience, d'observation, de mémoire, d'intuition, ce que j'ai appris par la vie, les livres, la rumeur publique et privée, que l'homme écoute la radio beaucoup plus fort que nous, qu'il claque les portes, qu'il ne ferme pas les placards, qu'il ne sait pas où sont rangées les casseroles, les assiettes, les fourchettes à huit, qu'il oublie des dates importantes, qu'il ne se trouve pas assez de défauts, qu'il ne se sent pas naître, qu'il souffre à mourir et qu'il oublie de vivre, que les ténèbres le troublent, qu'il voit mieux de loin mais ne trouve pas le beurre dans le frigo, qu'il est fidèle en amitié, qu'il s'assied les jambes écartées, qu'il utilise en moyenne 7000 signes par jour, la femme 20 000, et qu'il dissocie l'amour du sexe. Ça, c'est un extrait de « Dans ces bras-là ». Le style, Camille Laurence, parlons-en. À chaque livre, votre style. Comme si, effectivement, peut-être avez-vous d'abord la thématique de ce que vous allez prendre comme support d'histoire. D'ailleurs, je ne sais pas si vous acceptez ce terme d'histoire. Mais ensuite, il y a la mécanique de l'écriture, comme si les mots s'enchaînaient tous entre eux, et comme si, pour vous, tout était question de souffle.
Oui, tout est question de souffle et de rythme, au fond, et j'écris beaucoup à l'oreille.
Et vous relisez à voix haute ?
Je me relis à voix haute, oui, bien sûr. Et au fond, non seulement le style, mais finalement presque les personnages eux-mêmes sont d'abord des rythmes. J'ai mis en exergue d'un de mes romans, Romance nerveuse, une phrase de Mallarmé qui dit « Toute âme est un nœud rythmique ». Et je ressens cela très, très fortement. Et donc les personnages sont eux-mêmes pris dans des nœuds de rythme différents, donc la phrase essaie d'épouser ces rythmes-là.
À quel moment avez-vous compris que vous pouviez faire le saut, passer de l'autre côté du miroir ?
Bah, il y a eu plusieurs étapes dans l'écriture, mais je suis passée de romans, ce que j'appelle des romans, où j'inventais des histoires, des fictions un peu policières avec des détectives, des enquêtes, des énigmes, à ce qu'on a appelé l'autofiction et que moi je préfère appeler l'écriture de soi. L'autre côté du miroir, pour moi, c'est le moment où on essaie d'être au plus près d'une vérité de soi-même, d'une vérité de la vie. Et moi, c'est au moment où j'ai perdu mon fils Philippe. C'était la première fois que je disais « je ». Dans un récit, parce que ce n'est pas un roman, c'est un récit. Et ensuite, je n'ai pas pu revenir. En fait, j'ai essayé, mais je n'ai pas pu vraiment revenir au roman traditionnel avec des identités fictives et des histoires, puisque vous employez le terme des histoires inventées. J'ai pas pu complètement revenir à ça.
Vous avez mis combien de temps pour écrire ce texte, Philippe ?
J'ai commencé à l'écrire le lendemain de sa mort, donc j'étais encore à l'hôpital. J'ai écrit sur des petits bouts de feuilles, des choses qui traînaient. J'avais pas dans l'idée d'écrire un texte pour le publier, donc je l'ai écrit très vite. Et c'est ensuite, en parlant avec mon éditeur, que j'ai finalement décidé d'assembler ces fragments, là encore, pour en faire un petit livre.
On dit que les femmes racontent leurs accouchements comme les hommes leur guerre. En temps normal, il ne me serait pas venu à l'idée de le faire. Mettre un enfant au monde était pour moi un événement naturel, il n'y avait pas lieu de le commenter. Mais il se trouve que le 7 février dernier, cet accouchement est devenu la guerre, avec sa violence, sa lâcheté, sa misère et la mort au bout. Voilà un des chapitres de Philippe. Philippe qui est un livre bouleversant. Philippe qui, je crois, a changé votre destin d'écrivain, Camille Laurence, puisque vous le dites, vous n'avez pas pu lâcher ce jeu ensuite, que vous allez peut-être masquer d'une autre façon dans tous vos autres livres, et notamment dans le dernier. On reviendra sur ces métamorphoses du jeu. Mais ce livre aussi a eu beaucoup de conséquences. dans le monde de l'édition, puisque votre éditeur, POL, Paul Tchaïkovski-Laurence, a demandé à ce que vous partiez de la maison d'édition où vous étiez publié, à la suite d'une polémique avec Marie Dariussec, et vous me direz si j'emploie pas de manière précise les mots, car Marie Dariussec avait à ce moment-là publié un livre sur la mort d'un enfant, et vous lui aviez contesté l'idée de pouvoir écrire sur la mort d'un enfant parce qu'elle-même ne l'avait pas vécu.
Non, mais en fait, ça c'est ce qui a été dit un petit peu partout, mais je ne lui ai jamais contesté le droit d'écrire. D'ailleurs, je n'ai jamais fait de procès, alors que je pense encore la moitié des lecteurs est convaincue que j'ai fait un procès et que je l'ai perdu. C'est presque 10 ans après. Et quand je me déplace dans les librairies, très souvent, les gens me disent « mais c'est pas bien ce que vous avez fait ». Alors que je me suis contentée d'écrire un article dans lequel j'expliquais non pas que je lui contestais le droit, mais où je me posais la question du sens que ça avait pour elle, étant dans la même maison que moi et étant arrivée chez POL, précisément, avait-elle dit à ce moment-là, parce que POL avait publié ce récit, Philippe, qu'elle admirait beaucoup. Et donc, j'ai trouvé, pour le moins, peu élégant et de toute façon, pour moi, dépourvu de sens, le fait d'écrire une fiction à partir de la mort d'un enfant. Voilà. Et c'est quelque chose dont je me rends compte que on a beaucoup de mal à le comprendre, alors que, je ne sais pas, il me semble que si Hervé Guibert avait vécu assez longtemps pour voir dans sa même maison d'édition un auteur venir avec un roman complètement fictif où il raconterait à la première personne son sida, tous ses problèmes physiques, ses analyses, toutes ses relations avec les médecins, avec la société... Je ne sais pas si ça aurait été vraiment bien compris, ni par Hervé Guibert, ni par qui que ce soit. Et là, je ne sais pas, si c'est parce que c'est une histoire de femme, finalement, et d'ailleurs je n'ai jamais compris la réaction de mon éditeur, parce que c'était un article que j'avais écrit, il suffisait de dire son désaccord. Et quand vous dites qu'il m'a demandé de partir, il m'a chassé, il m'a pas demandé de partir. Il m'a chassé et de plus, il l'a fait dans un article publié dans Le Monde, qui se terminait par « nous ne travaillerons plus avec Camille Laurence ». Alors que moi, j'avais juste publié un article dans la revue littéraire, revue ultra confidentielle, donc je ne cherchais pas du tout la polémique, simplement je voulais dire mon point de vue, que personne n'écoutait, ni dans la maison d'édition, ni du côté de Marie Dariussec.
Dans toute écriture, Camille Laurence, il faut un écho de vérité ?
Je pense que c'est mieux, oui. Je pense que c'est mieux. Je crois que il y a quelque chose qui doit venir d'une nécessité, en tout cas. Et c'est d'ailleurs toujours à propos de cette polémique, c'est la différence que fait Proust, par exemple, entre les vérités logiques. C'est-à-dire, vous lisez un roman, vous trouvez que c'est juste, que la psychologie des personnages, que l'enchaînement des faits est juste. Mais Proust fait la différence entre ces vérités logiques et les vérités nécessaires. Celles qui se sont imprimées en vous, que la vie a imprimées en vous, dit Proust. Et c'est cette vérité-là qui m'intéresse.
Si encore vous aviez crié, m'a dit l'accoucheur d'un ton de reproche. C'est vrai, quoi, il y en a qui hurlent, d'autres qui n'ouvrent pas la bouche, alors on ne peut pas savoir. Fermez les guillemets. Tout est là, peut-être, sous cette phrase odieuse. Il faut hurler, faire entendre son mal, s'imposer, stridence du cri de Jeanne Moreau, prostrée sur le carrelage du café à la fin de Moderato Cantabile. Je hais, soudain, ma discrétion, la quasi-incapacité où je suis de souffrir en public, d'habiter l'instant sans distance, la conscience, la maîtrise, le silence, vivre tout haut, risquer sa voix, être dans le cri. Flaubert dit l'inverse, pourtant, qui ne gueule que seul. Deux points, ouvrez les guillemets. Les gens comme nous doivent avoir la religion du désespoir. Il faut qu'on soit à la hauteur du destin, c'est-à-dire impassible comme lui. À force de dire tout cela est, et de contempler le trou noir, on se calme. Fin de citation. Et vous ajoutez, Camille Laurence, dans Philippe, écrire « Marme, fragile coffrage que ma vie, qui serait depuis longtemps effondrée sans le fer de la phrase ».
Ah oui, moi j'ai vraiment éprouvé au moment de la mort de Philippe que c'était le, je dirais presque la syntaxe qui me tenait en vie. En tout cas la langue que j'ai appelée d'ailleurs à ce moment-là la langue maternelle, parce que c'était comme si, ne pouvant être mère moi-même, eh bien j'étais consolée par la langue, comme si elle me prenait dans des bras maternels.
Nous allons écouter la voix de Jacques Lacan à propos du rapport entre la langue, le corps et la jouissance. C'était lors d'une conférence intitulée « La troisième », conférence fameuse, c'était à Rome en 1974.
Il faut y concevoir, c'est le dépôt, l'alluvion, la pétrification qui s'en marque du maniement par un groupe de son expérience inconsciente. La langue n'est pas à dire vivante parce qu'elle est en usage. C'est bien plutôt la mort du signe qu'elle véhicule. Ce n'est pas parce que l'inconscient est structuré comme un langage que la langue n'est pas jouée contre son jouir. Puisqu'elle s'est faite de se jouir même. Le sujet supposé savoir qu'est l'analyste dans le transfert ne l'est pas supposé à tort s'il sait en quoi consiste l'inconscient d'être un savoir qui s'articule de la langue. Le corps qui la parle n'y est noué que par le réel dont il se jouit. Mais le corps est à comprendre au naturel comme dénoué de ce réel qui, pour y exister au titre de faire sa jouissance, ne lui reste pas moins opaque. Il est l'abîme moins remarqué de ce que ce soit la langue qui cette jouissance la civilise, si j'ose dire. J'entends par là qu'elle l'apporte à son effet développé, celui par lequel le corps jouit d'objets dont le premier, celui que j'écris du petit a, est l'objet même, comme je le disais, dont il n'y a pas d'idée. D'idée comme telle, j'entends, sauf à le briser, cet objet, auquel cas ces morceaux sont identifiables corporellement et comme éclat du corps identifié.
Alors, compliqué à comprendre, il faudrait le réécouter plusieurs fois pour en comprendre toute la nature. C'est Lacan, mais quand on vous lit, Camille Laurence, on pense souvent que vous êtes une lectrice de Lacan, et que d'autre part, vous avez appliqué certains de ces principes, notamment la possibilité de jouir avec la langue et de la langue.
Je lis toujours Lacan un peu comme j'écris, c'est-à-dire plus rythmiquement, plus en me laissant porter par la parole, parce que je l'écoute beaucoup, j'écoute beaucoup les conférences qu'on trouve sur Internet, plus de cette façon-là que pour le sens lui-même qui reste parfois opaque, comme il le dit. Mais la psychanalyse me passionne et le rapport de l'inconscient à la langue et à la jouissance, c'est quelque chose que je garde toujours présent à l'esprit, et même pas seulement à l'esprit, mais dans le corps quand j'écris. Et je fais pas beaucoup de différence au fond entre la jouissance qu'il peut y avoir à écrire et la jouissance érotique, c'est toujours un rapport au corps. D'ailleurs, je dis dans mon dernier livre que le mot langue joue sur ces deux sens, puisque la langue, c'est à la fois l'organe qui peut être l'organe du plaisir, du baiser, et puis, bon, c'est plus abstraitement, enfin, abstraitement, c'est très très concret aussi, ce qui nous sert à écrire, à parler, à communiquer.
On peut faire l'amour avec la langue ?
Ah, on peut faire l'amour avec la langue, oui, mais toujours avec ce petit manque.
Dans les deux sens du terme, parce que la fellation dans votre dernier bouquin occupe une place prépondérante.
Oh, prépondérante.
Enfin, en tout cas, il y en a beaucoup question.
Oui, oui. C'est parce que je voulais montrer le rapport. On peut parler de rapport là ou la relation. Puisque le mot relation, c'est la même chose, la relation sexuelle et puis relater quelque chose. Donc relater une relation sexuelle, c'est d'ailleurs pas très facile. Et une fellation, c'est avec la langue, oui.
Mais justement, les nouvelles manières d'échanger de la communication en utilisant non pas la langue, mais des éléments de langage, notamment par le biais d'Internet, ce qui est le sujet de votre dernier magnifique roman, est-ce que cela va pas atténuer toute la possibilité de jouissance ?
Ah ben c'est une jouissance dans l'imaginaire et ça c'est parfois très très fort et ça peut être très destructeur d'ailleurs parce que c'est le fantasme qui prend toute la place. Donc il y a plus de corps proprement dit. Il n'y a pas le corps de l'autre en tout cas, mais il y a tout un développement d'images, de rêves, de projections imaginaires. Et c'est le cas du ce personnage qui tombe, elle tombe amoureuse via Facebook, donc de façon virtuelle. Tout est virtuel en tout cas au début du roman. Mais le virtuel, c'est très fort.
On revient au labyrinthe de Borges de tout à l'heure.
Oui, parce que le roman est construit de façon labyrinthique au sens où je pars dans différentes directions. Enfin, en tout cas, j'explore toutes les pistes narratives possibles. Parce que je pense que, en tout cas moi, c'est ce que je fais dans la vie réelle, au début d'une histoire d'amour, par exemple. Il y a à la fois
vous
ce que
vous en avez
je...
beaucoup.
Oui, quand même, oui.
C'est ce qu'on comprend en vous lisant, oui.
Mais là, à propos
plutôt prédatrice, consommatrice ou prescriptrice.
Pas consommatrice, non, parce que c'est pas. J'ai repris d'ailleurs cette occasion une phrase de Marguerite Duras qui dit ce n'est pas le sexe qui m'intéresse, c'est le désir. Et donc, ce n'est pas tant la consommation qui m'intéresse, la consommation sexuelle, que tout ce qui précède, oui, qui est
les manœuvres d'approche.
Voilà, les manœuvres d'approche, la première fois.
Et la seconde, c'est pas terrible. Enfin, quelquefois, la première, c'est pas terrible non plus. Enfin, là, je me réfère à ma lecture de celle que vous croyez.
Oui, oui, non. Parfois, le virtuel est préférable à la réalité. Mais vous savez que virtuel, c'est la même racine que viril, que virilité. Ça vient de vir, l'homme. Donc, le virtuel, c'est comme l'homme, finalement. Ça existe en puissance, beaucoup plus qu'en réalité.
Vous avez de la suite dans les idées, Camille Laurence, car quand on relit vos livres systématiquement en ayant dans la tête la mémoire du dernier, celle que vous croyez, et quand on relit dans ces bras-là, on voit qu'il y a une nouvelle qui s'intitule « Le correspondant ». Donc, dans ces bras-là, ça a été publié, je pense,
en
2000, donc ça fait quand même très longtemps, 16 ans. Voici comment commence ce texte. Ils se sont rencontrés une fois dans un colloque et depuis ils s'écrivent. Il est marié, il a 3 enfants, il lui demande si elle accepte d'être sa sœur. Elle aime recevoir ses lettres. Au début, c'est une joie, ouvrir la lettre, la lire, découvrir un homme à travers ses phrases, leur rythme, leur parenthèse. On dirait une respiration de l'esprit, oui, des lettres qui respirent l'intelligence. Elle le provoque, lui dit qu'elle pense aux hommes, lui dit ce qu'elle pense des hommes. Il lui écrit qu'il l'aime, il lui écrit ce qu'elle veut lire, lui dit ce qu'elle veut entendre, qu'il l'aime. Voilà, point. Donc en fait, c'était déjà l'archéologie de ce livre qui va devenir 16 ans plus tard, celle que vous croyez.
Oui, oui,
sauf c'est que juste. Ça se passait par lettres.
Voilà, parce qu'il y a
qu'Internet,
porte. Voilà.
Ça n'existait pas autant que maintenant.
Oui, c'est vrai, mais je pense qu'il y a beaucoup de ponts, de toute façon, entre Dans ces bras-là et celle que vous croyez, à 16 ans d'intervalle, en effet. Mais oui, je n'avais pas pensé à ça, en effet. Sauf que dans le correspondant, ce qui
c'est
gênait...
C'est plus romanesque.
Oui, mais ce qui gênait cette narratrice, c'est que... il lui demande à être sa sœur, parce que
c'est une parade, c'est une ruse.
Oui, oui, on peut penser ça.
Et d'ailleurs, vous en avez beaucoup de ruses. En tout cas, votre narratrice, elle en a beaucoup.
Oui, bah, et...
elle est comme Camille Laurence, qui s'appelle pas Camille Laurence, qui est en train de nous parler comme si elle s'appelait Camille Laurence.
Mais de toute façon, il y a toujours des couches de réalité successives et des c'est comme un oignon. Hein. On enlève une pelure d'oignon et il y en a une autre dessous et on arrive... ce sont des masques successifs. Donc, dans l'écriture, j'aime bien traduire cette sensation que j'ai, qu'on ne connaît jamais l'autre, qu'on ne se connaît jamais soi-même et que donc ce qu'on montre, c'est toujours une pseudo-réalité, une pseudo-vérité. Donc Camille, effectivement, Camille Laurence, c'est un pseudonyme, mais pseudo, ça veut dire mensonge, mais... je crois qu'on est fait de beaucoup de mensonges.
Ben nous, en tant que lecteurs de vos livres, Camille Laurence, on se demande si j'ose dire, pour parler vulgairement et je m'en excuse, si c'est du lard ou du cochon. Je pense particulièrement à un chapitre d'un de vos livres où vous expliquez qu'après la mort de votre grand-père, enfin, en tout cas du grand-père de la narratrice, cette petite fille... qui doit avoir 7-8 ans, éprouve un très grand chagrin, qu'elle va être emmenée par le frère de son grand-père, c'est-à-dire son oncle paternel, au fond du jardin, et que là, bah, il va se passer une tentative de viol. Et que au retour de cette expérience ô combien douloureuse et traumatisante, elle va essayer d'en parler à sa propre mère et à son entourage proche le plus familial, et qu'on va lui demander de se taire, et qu'on va lui demander de dire que ce qu'elle a vécu n'a pas existé.
Oui, alors là, c'est effectivement cette narratrice qui raconte ça dans plusieurs romans, et cette narratrice, là, pour le coup, est vraiment très très proche de moi, puisque c'est complètement autobiographique, et je pense que c'est un des événements... je dirais fondateur de l'écriture pour moi, parce que comme je ne pouvais pas parler, enfin en tout cas, on m'a demandé de me taire, effectivement, puisque c'est ma grand-mère qui m'a dit à ce moment-là, ce que tu viens de me dire, ne le répète jamais, ce qui m'a valu de faire, bien des années après, tout un essai sur le thème de la répétition, oui. Parce que justement, il ne fallait pas être une rapporteuse, il ne fallait pas répéter. Et au fond, peut-être que je suis devenue écrivain parce que il fallait bien que je trouve un moyen de dire ça, de le répéter, malgré l'interdit. C'est toujours en passant par-dessus une interdiction, oui, sans doute.
Nous allons écouter, j'allais dire expliquer, beau lapsus, vous voyez. Nous allons écouter Marguerite Duras au micro de Benoît Jacquot à propos de l'écriture et de ce livre, Le Vice-Consul. C'est une archive INA du 6 mars 1996.
Il s'est trouvé dans un trou, au fond d'un trou, dans une solitude quasi totale. Et découvert que seul... l'écriture vous sauvera. Être sans aucun sujet de livre. Ne penser à aucune idée possible de développer dans un livre. Rien. Simplement l'écriture. Sèche, nue, comme ça. Terrible. Terrible à surmonter. Une force Le Vice-Consul, c'est un livre que j'ai crié, je peux dire. Sans voix. J'aime pas cette expression, mais quand je la relis, je trouve quelque chose comme ça. C'est vrai qu'il hurlait beaucoup, le Vice-Consul. C'est vrai, ça, j'oublie tout, je m'en souviens un instant. Et il hurlait chez lui, où il était seul. Et dans la nuit. Il était inconvenant, le Vice-Consul. Il tuait la horde toutes les nuits. Mais je ne l'ai jamais retrouvé ailleurs. Je ne l'ai retrouvé que dans l'acteur qui l'a joué. Qui a joué son rôle, ce rôle. C'est-à-dire Lance Darle.
Dans votre dernier roman, Camille Laurence, Celle que vous croyez, vous faites basculer l'écriture en prenant une citation de Marguerite Duras. Cette citation est extraite des Yeux bleus, cheveux noirs. Voici ce qu'elle dit, Marguerite Duras. « Ce que je veux raconter, c'est une histoire d'amour qui est toujours possible, même lorsqu'elle se présente comme impossible aux yeux des gens qui sont loin de l'écriture, l'écriture n'étant pas concernée par ce genre de possible ou non de l'histoire. » Pourquoi prenez-vous Duras ?
Parce que Duras, c'est mon écrivain de chevet, je l'ai toujours avec moi, je connais le passage qu'on vient d'entendre, je le connais pratiquement par cœur, tout d'ailleurs du texte écrire, ce qu'elle a repris dans écrire, c'est... Ça correspond tellement à ce que j'éprouve à propos de l'écriture, enfin je comprends complètement tout ce qu'elle dit là. Et puis j'aime aussi son cinéma, quand elle évoque India Song et le cri. Peut-être que ce que j'admire et que j'envie aussi chez Marguerite Duras, c'est précisément cette possibilité de crier. C'est le cri qu'on entend et que moi je n'arrive pas encore maintenant, je pense vraiment à proférer. Il y a quelque chose qui vient de cette obscurité, de cette ombre interne dont elle parle souvent. Et puisque là dans la citation que j'ai mise en exergue à une des parties de ce roman, c'est aussi parce que ce qu'elle a très bien montré, c'est que bien sûr, dit-elle, il faut que l'événement ait lieu, mais ensuite, ajoute-t-elle, ce qui a été vécu est remplacé par ce qui a été écrit. Et j'aime cette idée que je trouve très, très juste, qu'il y a une transformation qui s'opère par l'écriture et qui, non pas qui sublime d'ailleurs, mais qui traduit ce qui a été vécu. Et c'est le livre qui devient la vérité.
Et comme pas, dans Le ravissement de l'Helvétien.
Voilà, voilà.
Et cette Claire Milcam, dans votre dernier ouvrage, Celle que vous croyez, finalement, une fois le bouquin terminé, il ne faut pas expliquer les rebondissements, parce que vous disiez au début de cette émission que vous aviez un côté détective, roman noir, etc., oui, que vous conservez aussi dans la structure de ce dernier texte. Eh bien, on ne sait pas si tout ce qui est raconté est vrai ou si elle se l'est inventé.
Oui. Oui, ça c'est volontaire, oui, on ne sait pas jusqu'au bout parce que le fantasme et la réalité se mélangent et je voulais qu'ils se mélangent pour le lecteur jusqu'au bout. Parce que moi-même, je ne sais pas où est la vérité. Je ne peux pas prendre la vérité d'une histoire et la poser sur la table en disant voilà, ça s'est passé comme ça, c'est ça la vérité. Je n'ai pas envie d'écrire un roman comme ça.
Oui, mais manifestement, vous connaissez parfaitement les usages et les rites de pratique des sites de rencontres sur Internet.
Oui, oui. Ah ben oui, je mène ma petite enquête. Non, mais en plus, j'aime bien. Je suis sur Facebook, je ne suis pas accro, hein. Contrairement à ce qu'on pourrait penser peut-être en lisant, mais je trouve que il y a plein de qualités, il y a plein de vertus hein, aux réseaux sociaux. Mais c'est aussi un lieu hautement romanesque où on peut mentir, manipuler, tricher. se masquer et s'inventer une vie. Mais ça aussi, pourquoi pas?
Vous mettez souvent les hommes dans les caddies des supermarchés sur Internet?
Non, ça c'est dans c'est un site qui s'appelle Adopte un mec. Non, ça c'est, je suis plus assez jeune quand même pour aller sur ce genre de site.
Bah, mais en fait, si vous prenez une autre identité que la vôtre, oui, comme dans votre bouquin.
Oui, bien sûr, mais à ce moment-là, la rencontre réelle est difficile, déjà qu'elle l'est beaucoup dans ce roman.
Ah, donc vous êtes en train de nous dire que quand vous allez sur Internet, il faut que ça soit suivi de conséquences. Il y a rencontre.
Ah ben, je suis tout à fait favorable à la rencontre réelle. Je ne vis pas de virtualité.
Êtes-vous tombée amoureuse à la suite d'une rencontre de hasard?
Ah oui, ça m'arrive. Ça m'est arrivé.
Sans masque, sans pseudo-identité. Alors comment vous présentez-vous?
Mais c'est toujours difficile parce qu'en fait...
Camille Laurence, ça devient grave là, et compliqué pour vous maintenant que vous avez sorti votre bouquin.
Mais oui.
D'aller sur Internet,
oui,
sur les sites de rencontres.
Mais bien sûr, ça se complique.
Mythique, c'est... Vous êtes obligé d'en trouver un autre que Mythique, là.
Oui, et puis il faut que
vous êtes démasqué.
Et il faut que je trouve un autre nom et une photo qui ne soit pas la mienne, parce que ma photo commence à être un peu connue. Enfin, bon, moi, je voudrais être dans l'anonymat le plus complet pour séduire. J'ai pas envie de séduire comme Camille Laurence, écrivain. J'ai envie de séduire comme...
Pourquoi? Parce qu'elle est trop intelligente?
Oui, peut-être, oui. Oui, s'il y a trop de maîtrise. Il y a trop de maîtrise dans Camille Laurence.
En même temps, celle qui provoque les rencontres ou les accepte grâce à ce site de rencontres sur Internet, elle se laisse faire dans des situations qui ne correspondent pas à ce qu'elle espérait. Elle pense toujours que ça va être mieux. La seconde d'après, le geste du mec, la proposition du mec. Et le réel est toujours là, encore plus gluant, encore plus obscène que la pire des hypothèses qu'elle pouvait se formuler intellectuellement. Et pourtant, elle tient.
Oui, mais parce que ce ne sont que des hypothèses, au fond. Et c'est pas parce que il va se passer un événement épouvantable, une parole violente, cruelle, féroce, que pour autant cette narratrice va se dire bon ben je laisse tomber, cette histoire n'a aucun avenir. C'est comme s'il y avait toujours, parce que justement il y a toujours la possibilité d'autre chose derrière. Il peut se passer autre chose. Les gens ne sont pas forcément ce qu'ils ont l'air d'être, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Donc elle n'est pas arrêtée par la première parole violente. Voilà, peut-être que la seule chose qui l'arrêterait vraiment, ce serait la violence physique.
Notre narratrice ressemble fortement à celle que j'ai en face de vous, qui dit s'appelait donc Camille Laurence. Et pourtant, il faut souligner qu'à l'intérieur de ce texte, il y a aussi une autre dimension, c'est justement l'âge. Vous avez l'air très jeune, beaucoup plus sans doute. C'est toujours à la suite de ma lecture que je vous dis ça. Beaucoup plus sans doute que l'âge réel qu'il y a sur vos papiers d'identité. Et la narratrice de celle que vous croyez masque son âge et va mettre sur Facebook une photo de quelqu'un de beaucoup plus jeune. Pourquoi? Est-ce à dire que les femmes, contrairement aux hommes, n'ont pas la possibilité d'avoir l'expression de leur... désir ou de leur volonté d'avoir du désir autant que les hommes?
Je crois que c'est tout à fait inéquitable et inégal, y compris dans notre société, même si c'est souvent dénié. Je pense que le désir des femmes, et particulièrement quand elles avancent en âge, n'est pas considéré de la même façon que celui des hommes. Et on en a des exemples partout, toujours. Des couples formés d'une femme plus âgée, largement plus âgée qu'un homme, ce sont des couples qui sont toujours montrés du doigt, moqués, raillés. Enfin, ça, c'est... Alors qu'à l'inverse, c'est presque la norme, en fait, qu'un homme ait 15 ou 20 ans de plus. Plus que sa femme, c'est tout à fait admis, accepté et même valorisé.
Elle est méchante, votre narratrice. Pourquoi? Elle n'a aucune compassion pour les êtres.
Elle a été bien, bien démolie, donc elle est quand même dans un hôpital psychiatrique. Parce qu'elle a été ravagée, là c'est Lacan qui dit qu'est-ce qu'un homme pour une femme, son ravage. Et bien là, elle est l'exemple même de cela. Elle a été ravagée par une histoire d'amour ratée, donc elle est en effet assez assez méchante. Elle n'a plus beaucoup d'espoir. En même temps, elle en a toujours parce qu'elle a de l'humour.
La relation entre l'amour et le sexe.
Oh, bah pour moi, c'est pas très différent. Je pense que il peut y avoir beaucoup d'amour dans une relation qui peut paraître strictement sexuelle. Et en tout cas, moi, j'ai l'expérience que c'est souvent dans l'érotisme que se révèlent des sentiments qui ne sont pas forcément avoués avec des mots dans la vie.
À un moment, dans votre bouquin, vous dites que si on n'a pas fait l'amour avec quelqu'un, on peut pas le connaître.
Oui, bah ça c'est une ancienne certitude. Je le disais déjà dans ces bras-là, puisque je revenais sur le sens biblique de connaître. Dans la Bible, quand on dit il connut Sarah, ça veut dire il eut une relation charnelle avec elle. Eh bien, moi j'aime beaucoup cet emploi du verbe connaître. Parce que je pense que c'est en effet la sexualité un moyen de connaissance et qui est très sous-évalué. Moi, j'apprends beaucoup en faisant l'amour. J'apprends beaucoup de l'autre. D'ailleurs, ça peut être, je peux apprendre des éléments positifs et d'autres très négatifs qui avaient été cachés dans la vie sociale ou mondaine.
Et sur vous, vous apprenez aussi ?
Oui, sur moi aussi, oui. Oui, mais bon, cela dit, c'est comme dans la vie, on peut tricher, y compris dans la sexualité, mais quand même, bon, c'est un lieu de vérité, je pense.
Vous accepteriez de terminer cette émission en lisant un court extrait de votre dernier roman ?
Avec plaisir. Comme Chris annonçait publiquement son statut de photographe sur Facebook, j'ai créé mon avatar en me fabriquant une identité de fille passionnée de photos. Sur mon profil, j'ai mis l'image d'une brune trouvée sur Google, le visage entièrement masqué par l'objectif d'un Pentax. On ne voyait que ses cheveux. J'avais déduit du survol de ses photos d'amis qu'il préférait les brunes. J'ai indiqué que j'avais 24 ans, 12 de moins que lui au lieu de 12 de plus, que j'habitais en région parisienne mais que je voyageais beaucoup. J'ai mis toutes les chances de mon côté. Avant de lui faire à lui une demande d'amitié, histoire de l'appâter sans éveiller ses soupçons, j'ai engrangé sans les connaître quelques dizaines d'amis en rapport avec l'image ou la mode. Des gens comme lui, cool, swag, branchés ou losers, contents d'eux et amis du genre humain, in love with life. Il m'a tout de suite accepté. C'est même lui qui a pris l'initiative de la conversation parce que j'avais liké une de ses photos. Ce devait être au début de l'année, en janvier. Nous nous étions disputés au moment de Noël, Joe et moi. Les fêtes, c'est une période vulnérable, on se sent plus seul quand on est seul. Joe n'aurait pas raté une occasion pareille. Il a dû me jeter juste avant le réveillon. Alors le message de Chris m'a fait plaisir, c'était idiot parce que ça n'avait aucun sens particulier. Content que tu aimes mes photos, merci, Happy New Year. Je m'appelle Christophe, Chris pour les amis. Ce n'était pas de la drague non plus, juste de la politesse au fond. Mais le lien était établi. J'ai répondu que je trouvais ces photos formidables, que j'avais visité l'expo qu'il avait faite l'année précédente rue Le Pic. J'avais vu le flyer sur son mur, quelques grands formats à vendre dans une galerie bar. Il m'a demandé si on s'était rencontrés à cette occasion. J'ai dit que non, qu'il n'était pas là quand j'étais venue.
Merci beaucoup, Camille Laurence. Merci donc pour vos livres. Ils sont très nombreux, je n'en rappellerai que quelques-uns. Encore et jamais, romance, Index, Dans ses bras-là, Philippe, et le dernier qui s'intitule « Celle que vous croyez ». Merci plus exactement, Camille. Et merci à Élodie Royer, Corinne Amar, Samuel Bernard, Philippe Brenin, Anne Kobilac. Vous écoutez France Culture. Bonne fin de soirée.